Les informations de Mireille Boukessa. Grande commission mixte RDC République sud-africaine, les experts de deux pays réfléchissent depuis ce lundi à Pretoria sur leurs différents accords de coopération. Jean-Pierre Bemba vient d'être saisi par la Chambre haute du Parlement. Le sénateur Bemba doit se conformer aux prescrits du règlement relatif à l'absence à plus d'un quart des séances d'une session. Le Sénat l'a dit au cours d'un point de presse tenu cet après-midi au Palais du Peuple. Près de 20 tonnes de marchandises à destination de Bouta freinent à Beni. Les avions de l'unique compagnie qui desservait cette région sont cloués au sol depuis le mois dernier. Conséquence, augmentation des prix de produits de première nécessité. Bonsoir à tous. Congolais et Sud-Africains évaluent depuis ce matin à Pretoria leurs différents accords de coopération. C'est ce qu'ils appellent la grande commission mixte. Cet après-midi, les experts des deux pays ont commencé les réflexions. La coopération dite avantageuse entre la RDC et la RSA existe depuis 2004. Elle concerne différents domaines et pas seulement la sécurité comme en période de transition. Notre envoyé spécial à Pretoria, Georges Kamdiova.
La déclaration commune d'intention d'août dernier est la dernière dans le domaine de la défense. L'Afrique du Sud s'engageait à appuyer la réforme en cours des FRDC. La réunion de Pretoria évaluera donc cet engagement, mais également évaluer l'exécution des autres accords déjà signés sur la santé ou le transport. Un communiqué du ministère congolais des Affaires étrangères mentionnait la semaine dernière que le président Thabo Mbeki avait déjà demandé à la RDC d'élaborer une feuille de route de ce qui est fait et ce qui reste à faire. Dans ce qui reste à faire, effectivement, les deux pays comptent signer un accord sur l'énergie, nous a déclaré l'ambassadeur de la RDC à Pretoria. La RDC tirerait profit si elle parvient à obtenir un financement de son partenaire pour réhabiliter Inga 3. Commentaire d'un expert congolais à ce sujet, le barrage de Inga intéresse également les Sud-Africains secoués ces derniers trimestres par des pannes d'électricité. Ensuite, la demande en électricité est toujours croissante chez Thabo Mbeki à 2 ans de la Coupe du Monde. Reste à savoir maintenant si la justice, le transfert des technologies ou le tourisme auront assez de place face à l'enjeu énergie. Depuis Pretoria, Georges Kamudjova pour Radio Okapi.
En 4 ans d'existence de cette grande commission République sud-africaine RDC, 30 accords ont été signés. L'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud estime que ces accords ont déjà des effets chez les Congolais. Benin Poko cite entre autres l'intégration de l'armée à travers le brassage des troupes. Le diplomate congolais déclare en plus que ces accords iront même dans le domaine de l'habitat. Ambassadeur Benin Poko.
Il y a des accords qui vont nous aider à créer d'autres institutions nouvelles. Par exemple, on prévoit la création d'une banque d'habitat. Parce que comme vous le savez, le Congolais achète sa maison cash. Il n'a pas accès au crédit pour acheter la maison. Donc on va créer une banque d'habitat. On va aussi créer une société nationale d'habitat pour remplacer l'ancienne ONEL. Donc il y a ces accords-là qui visent la création de nouvelles institutions à part ceux qui se concentrent sur le renforcement des capacités. Dans le domaine de la construction de l'habitat, l'Afrique du Sud va nous aider à développer aussi les normes, ce qu'on appelle les standards. C'est parce que chez nous, on construit de façon anarchique. Il y a des accords à impact très visibles, le peuple peut suivre ça, mais il y a des accords à impact qu'on ne voit pas.
Nous l'avions dit dans le sommaire, la Chambre haute du Parlement vient de saisir le sénateur Jean-Pierre Bemba en rapport avec son absence prolongée au Parlement. Le bureau du Sénat, au cours d'un point de presse tenu cet après-midi au Palais du Peuple, lui demande de se conformer aux prescrits du règlement d'ordre intérieur, précisément sur la fin du mandat d'un sénateur. Il s'agit donc pour Jean-Pierre Bemba d'adresser officiellement ses préoccupations, notamment sa sécurité au gouvernement central. Plus des précisions avec le rapporteur et porte-parole du Sénat. Les propos de Modeste Mutinga sont recueillis par Paul Matendo.
Le bureau du Sénat vient de s'adresser à l'honorable Jean-Pierre Bemba par sa lettre numéro CAB /15/79/sec.1/DLL/2008 du 31 mars 2008, le priant de se conformer dès réception de la présente, la lettre du bureau du Sénat donc, au prescrit de l'article 204.6 du règlement intérieur, libellé comme suit. Le mandat du sénateur prend fin par 1. Expiration de la législature. 2. décès, 3, démission, 5, incapacité permanente, 6, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart de séance d'une session. Ce dont il s'agit s'applique à cette disposition.
Précisons qu'au cours de la même déclaration, le bureau du Sénat a affirmé que le gouvernement central a réagi aux garanties sécuritaires exigées par Jean-Pierre Bemba avant son retour en RDC. Parlons de cette nouvelle qui vient de nous parvenir. En Ituri, des tirs ont été entendus ce lundi en fin d'après-midi à Bounia. Des sources sur place indiquent que ces tirs de sommation ont été effectués par les éléments de la police nationale congolaise pour disperser une foule d'étudiants en colère. Ces derniers ont envahi le quartier général de la MONUC pour protester contre la mort d'une étudiante. Cette dernière est morte pendant qu'elle était transportée sur une moto qui a heurté un véhicule de la MONUC. Certains manifestants ont incendié une maison occupée par un fonctionnaire expatrié de la MONUC et d'autres ont cassé des pare-brises de quelques véhicules qui se trouvaient devant le quartier général de la MONUC à Bounia. Et puis cette polémique autour du retrait du mouvement armé Pareco du processus de paix. Contrairement à l'annonce faite le 25 mars dernier par le président de ce mouvement, le conseiller politique des Pareco FAP déclare que son mouvement ne s'est jamais retiré de ce processus. Pour Firmin Matessikouli, récemment nommé sur ordonnance du chef de l'État comme porte-parole des groupes armés du Nord Kivu, les déclarations faites par M. Sendougou Mousseveni n'engagent que le concerné. Firmin Matessikouli au micro de Denis Lukeso.
La Pareco FAP qui a signé l'acte d'engagement issu de la conférence des Gomas du mois de janvier, reste fidèle au processus de paix et ne peut jamais se désengager, comme a dit le camarade Mousseveni, qui est un cadre politique de la Pareco FAP comme tous les autres conseillers politiques.
Pour rappel, M. Sendougou avait déclaré que son mouvement suspendait sa participation au processus de suivi des accords de la conférence pour avoir été écarté des postes de responsabilité dans les ordonnances présidentielles nommant notamment les coordonnateurs nationaux adjoints des commissions techniques et leurs secrétaires permanents. M. Sendougou Mousseveni insiste que le Pareco reste sur ses positions jusqu'à ce que leurs revendications trouvent satisfaction. Il a été joint au téléphone par Denis Lukeso.
Entre le conseiller et le président qui prend une décision. Je dis bien, il n'est ni mandaté par le mouvement, ni mandaté par le groupe armé. Je dis bien que ça engage le mouvement. Je n'ai pas signé comme individu, j'ai signé comme président Pareco. La Pareco s'est retirée du programme Amani jusqu'à ce que ses revendications aient une solution durable.
Vous vous souviendrez que le coordonnateur du programme Amani avait réagi la semaine dernière sur nos antennes à ce sujet. L'abbé Apollinaire Malumalu avait déclaré que les revendications des groupes armés qui avaient décidé de claquer la porte au programme Amani étaient sans objet. D'après lui, les choix proposés par les groupes armés ont été respectés, que pour le reste, c'était au chef de l'État de décider. Toute réclamation devrait donc se faire au sein de la commission mixte paix et sécurité, avait-il ajouté. Human Rights Watch réagit à la suppression du mandat de l'expert indépendant en matière de droits de l'homme en RDC. L'ONG estime que cette décision de la 7e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas sa raison d'être parce que la situation de droits de l'homme n'a pas évolué en RDC. Human Rights Watch ajoute que la décision proposée par l'Égypte, président du groupe africain, est fondée sur des faux témoignages des délégués du gouvernement congolais faisant état de l'amélioration de la situation de droits de l'homme en RDC. Julie de Rivero, chargée du bureau de Human Rights Watch à Genève, a participé à cette 7e session. Elle s'exprime au téléphone de René Capita.
On est vraiment étonnés, surpris, déçus. C'est une décision à laquelle on ne s'attendait pas parce que on considère que la situation en RDC mérite de continuer à être examinée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies parce que malheureusement il y a encore des grands défis pour l'RDC en ce qui concerne les droits de l'homme. On a beaucoup de préoccupations par rapport à ce qui se passe à l'Est malgré les accords de paix. Mais pas seulement à l'Est, aussi au Bas-Congo et les événements récents sont des choses qui nous préoccupent et pour lesquelles on croit que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies devrait continuer à être saisi et à être informé sur la situation dans le pays. L'RDC a présenté une fausse image de la réalité actuelle en RDC et alors dans ce cas-là, l'Égypte, en tant que coordonnateur des diplomates africains, a soutenu le délégué de l'RDC en demandant que le travail de l'expert indépendant soit terminé.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Yévin Bouinga nous emmène d'abord au Katanga. Une tension a régné ce lundi à la cité minière de Louilou à Kolwezi.
Des milliers de creuseurs artisanaux ont manifesté contre la GKMIN Kolwezi. Ils protestaient contre la garde industrielle de ces sociétés qui les empêchait de prendre les minerais dans la concession de la GKMIN. Selon le maire de cette ville, les manifestants ont pillé un dépôt de la société, incendié le local de la garde industrielle et endommagé un véhicule. La même source précise qu'il y a eu aucune perte en vie humaine. Cependant, quelques manifestants ont été arrêtés et conduits à la police.
En province orientale, plus ou moins 20 tonnes de marchandises destinées à Bouta, ville située à 223 km au nord de Kisangani, traînent à Beni dans le nord Kivu.
Effectivement, Mireille, et c'est par manque de transport. Les avions de l'unique compagnie qui desservait cette région sont cloués au sol depuis février dernier. Pour cause, l'expiration de la licence d'exploitation de la compagnie Cetraca. En conséquence, les prix de certains produits de première nécessité ont doublé. La Fédération des entreprises du Congo district du Bazouélé demande au ministère des Transports une réponse urgente à la demande du renouvellement de la licence d'exploitation introduite depuis février. Explication avec Godlive Omondo.
Depuis plus d'un mois, la compagnie Cetraca, la seule et unique qui dessert le Bazouélé, n'est plus opérationnelle. Elle doit d'abord renouveler sa licence d'exploitation afin de se mettre en ordre avec le gouvernement en matière de trafic aérien. Selon les opérateurs économiques de Bouta, en attente désespérée de leurs marchandises bloquées à Beni, Cetraca avait déjà introduit sa demande de renouvellement des licences d'exploitation, mais celle-ci s'est fait toujours attendre. Pendant ces temps, les prix au marché et dans le magasin de Bouta ont doublé, voire triplé. Les opérateurs économiques de Bouta redoutent une rupture totale des stocks d'ici la fin du mois d'avril si les vols ne reprennent pas. Cependant, pour essayer de contourner cette difficulté, les opérateurs de Bouta ont tenté d'affréter un appareil, mais ils ne peuvent le faire en raison du prix des kilos de fret qu'ils jugent exorbitant. Celui-ci est passé de 2,5 $. Pour le président de la FEC, Bazouélé, Raymond Ngunza, cette tarification décourage les commerçants. L'unique solution, selon eux, serait d'octroyer à Cetraca la licence sollicitée, est-ce dans le meilleur délai. Bouta, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Le mois de la femme se clôture ce lundi 31 mars. Qu'est-ce qui est organisé dans la capitale Yévin?
Les femmes du réseau inter-ONG du développement et ses partenaires ont organisé aujourd'hui à Kinshasa une journée de réflexion. Objectif, aider la population à mieux comprendre les grandes lignes de la loi sur les violences sexuelles, car elles ont fait un constat. Cette loi promulguée depuis le 20 juillet 2006 n'est toujours pas connue de la masse. Parmi les innovations apportées à cette loi, l'âge de la majorité qui passe de 14 à 18 ans.
Et puis cette polémique au Kasaï occidental autour des frais de participation à la dissertation, nous sommes dans le secteur de l'enseignement.
Tout à fait, Mireille Boukassa, l'Observatoire congolais des droits de l'homme dénonce le non-respect de l'arrêté du gouverneur fixant les frais de participation à la dissertation dans le territoire d'Ilebo. Selon l'antenne provinciale de l'OCDH, plusieurs rapports reçus attestent qu'au lieu de 8 500 francs congolais, certains préfets exigent le double. Ainsi, maître Hubert Ngoulan-Djoko, coordonnateur provincial de l'OCDH sollicite l'implication de l'autorité provinciale pour mettre fin à cette situation. Il est joint par André Kambala.
L'OCDH dénonce de manière énergique le non-respect des taux ou de l'arrêté du gouverneur. Certaines écoles exigent plus. Nous citons notamment l'Institut Mandela de Panga, l'Institut Ipondo de Banga et le complexe scolaire des élites à Ilebo. Ils demandent plus que 10 000. L'élite 16 000, Mandela 13 500. Et Ipondo 17 800. Nous demandons aux autorités de réagir face à ces comportements. Plusieurs années, l'OCDH dénonce ces abus. L'autorité promet de réagir, mais malheureusement. C'est un sujet qui juste toujours de l'impunité. Et bien sûr, à ce jour d'aujourd'hui, nous demandons des sanctions très sévères à l'endroit des récalcitrants.
Merci Lévin. En dehors de nos frontières, l'opposition zimbabwéenne revendique une large victoire sur le régime du président Robert Mugabe lors des élections générales de samedi, tandis que les Européens appelaient à une publication rapide des résultats officiels du scrutin. Le mouvement pour le changement démocratique affirme que son candidat à la présidentielle, Morgan Tsvangirai, avait remporté 60% des suffrages contre 30% au chef de l'État. Ces résultats concernent les 128 des 210 circonscriptions où le MDC a fait ses propres calculs. En sport, exemptée des préliminaires, la RDC retrouvera le Congo-Brazzaville en mai prochain au premier tour des éliminatoires du CHAN, championnat d'Afrique des nations de football. Le Congo-Brazza s'est qualifié le week-end dernier suite à la suspension du Tchad par la FIFA de toutes les compétitions internationales. Pour rappel, le CHAN est une sorte de CAN-BIS réservée exclusivement aux joueurs africains évoluant dans le championnat de leur propre pays, communément appelé joueurs locaux. Ce championnat aura lieu en février 2009 en Côte d'Ivoire. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.